le magazine des Nations Unies.
Situation sécuritaire à Beni. François Grignon était encore dans cette région mercredi pour la troisième fois en moins de deux semaines. Le représentant spécial adjoint chargé de la protection et des opérations est allé s'y rassurer, notamment de la mise en œuvre des nouvelles stratégies de la MONUSCO. François Grignon est l'invité de ce magazine. L'UNESCO crée un réseau des journalistes pour le développement avec un site web et un groupe WhatsApp. Objectif, faire des journalistes des soldats de développement en matière de sensibilisation sur les objectifs de développement durable. Un expert de l'Observatoire congolais des ODD nous en parle dans la rubrique Décryptage. Soutenir et protéger les jeunes engagés dans la défense et la promotion des droits de l'homme, c'est l'appel des Nations Unies à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, journée célébrée le 10 décembre de chaque année. L'appel de l'ONU est le message du bureau conjoint dans cette édition. Enfin, 166 millions d'enfants dans le monde ne sont ni connus ni recensés à leur naissance. Révélation de l'UNICEF dans son rapport publié mercredi sur l'enregistrement des naissances à l'échelle mondiale. Voilà tout pour les titres, le développement dans quelques instants.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à cette édition, la dernière de cette année. Commençons par la situation sécuritaire à Beni. Le représentant spécial adjoint chargé de la protection et des opérations a été sur place cette semaine pour la troisième fois en moins de deux semaines. François Grignon est allé s'y rassurer de la mise en œuvre des actions et des nouvelles stratégies de la MONUSCO avec les autorités congolaises pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette région. Suivez le représentant spécial adjoint François Grignon au micro de Sekombi Katondolo.
Effectivement, c'est la troisième fois que je viens à Beni car je voulais travailler avec nos équipes pour m'assurer que nous puissions vraiment mobiliser les efforts pour reprendre, je dirais, l'initiative, améliorer notre performance, améliorer notre efficacité. Je suis venu les deux dernières fois et je me suis engagé à poursuivre nos efforts et à mobiliser tous les moyens et c'est ce que je continue à faire. Donc le message à la population, c'est que la MONUSCO est en train de revoir ses activités pour pouvoir s'assurer que tous les moyens et toutes les initiatives nécessaires sont mises en œuvre pour répondre à ses attentes et pour essayer de faire en sorte à ce que la violence soit réduite et que nous puissions, avec les autorités nationales et provinciales, restaurer l'autorité de l'État et amener la justice pour les crimes qui ont été commis.
L'UNESCO crée un réseau des journalistes pour le développement avec un site web et un groupe WhatsApp d'échange d'informations. C'est sur les objectifs du développement durable ODD. Ceci ressort d'un atelier de formation qui a réuni 70 journalistes du 9 au 11 décembre en cours à Kinshasa. Pour le représentant de l'UNESCO, les journalistes sont appelés à devenir les soldats du développement dans leur rôle de sensibilisateur dans le cadre de la mise en œuvre des ODD en RDC. Jean-Pierre Ilboudo le dit au micro de Jean-Pierre et la Ligue Coco.
Les formations, et même au niveau des 26 provinces, on aurait fait notre travail de journaliste, c'est-à-dire sensibiliser les communautés par rapport aux DDD, par rapport aux enjeux du développement national. Et nous allons continuer à travailler sur les ateliers qu'on va faire ensemble avec d'autres agences Nations Unies qui sont intéressées par ce que nous faisons et vous donner les outils nécessaires pour être des soldats du développement à travers donc vos différents médias. La formation que j'ai venu d'organiser tantôt, qu'on puisse fusionner les deux groupes pour avoir un seul groupe qui va travailler donc dans ce sens-là. Donc il y aura un réseau que nous allons mettre en place, qui aura son groupe WhatsApp, qui aura également sa plateforme électronique, donc son site web, où nous allons avoir la chance de mettre à votre disposition des documents, recevoir également vos documents, donc tout ce que vous avez comme production.
Comme dit dans le sommaire, le monde célèbre le 10 décembre de chaque année la Journée internationale des droits de l'homme. Cette année, l'ONU, par l'appel de son secrétaire général Antonio Guterres, a mis l'accent sur le soutien et la protection des jeunes qui s'illustrent dans la défense des droits de l'homme à travers le monde. Honoré Missenga Kalala pour les détails.
Dans sa déclaration, le secrétaire général de l'ONU a rendu hommage au rôle que jouent les jeunes dans la réalisation des droits de l'homme. Il a reconnu que l'année 2019 a été marquée par un important militantisme de leur part, notamment dans les questions du climat et de l'égalité des droits des femmes et des filles. Partout dans le monde, les jeunes manifestent, s'organisent et font entendre leur voix. Ils manifestent pour le droit à un avenir de paix, de justice et d'égalité des chances, a souligné Antonio Guterres dans son message à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, d'où son appel au soutien et à la protection de ces jeunes. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a également fait le même plaidoyer. Comme le secrétaire général de l'ONU, elle a été aussi frappée par la forte mobilisation des jeunes pour les droits de l'homme. Même vision du côté du président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour M. Tijani Mohamed Bande, l'engagement des jeunes dans toutes les facettes de la vie est essentiel pour parvenir à des sociétés inclusives et stables.
Toujours en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, le bureau conjoint a organisé le lundi 9 décembre à Kinshasa un forum sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. C'était en partenariat avec le ministère des droits humains. Au cours de ce forum, le directeur du bureau conjoint a brossé le rôle que joue le défenseur des droits de l'homme dans la société, Abdulaziz Tioy, dans ses propos recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Qui est défenseur des droits de l'homme? Les défenseurs des droits de l'homme sont des milliers d'individus et de groupes qui plaident partout dans le monde pour le respect des droits de l'homme. Ils éduquent, sensibilisent et contribuent à rendre les gouvernements responsables de leurs actions. Les défenseurs des droits de l'homme ont façonné l'architecture du système international des droits humains actuel et ils ont joué un rôle de premier plan au sein des gouvernements, de la société civile et des entreprises. Ils ont également accompli des actes quotidiens dans des endroits très très reculés afin de permettre à des citoyens de jouir d'un large éventail de droits, de réclamer l'égalité des sexes, la reconnaissance des droits fonciers et environnementaux, la lutte contre la violence fondée sur le genre, la lutte pour le droit de la femme, la protection des personnes handicapées et autres personnes vulnérables. Ils se battent également pour la réclamation des droits en matière de sexualité et de procréation et de nombreux autres droits, ou encore la participation dans des conditions d'égalité et de manière efficace à la vie publique. Le travail de promotion et de défense des droits de l'homme ne peut en aucun cas constituer une menace contre la sécurité d'un État. Ce travail vise à renforcer la cohésion sociale, la démocratie et l'état de droit. Les défenseurs des droits de l'homme représentent de véritables chiens de garde de la démocratie. Ils contribuent à surveiller le respect des droits de l'homme et la stricte application des normes internationales et nationales de protection des droits de l'homme. C'est pourquoi il nous revient à tous de créer un environnement sûr pour les défenseurs des droits de l'homme et de renforcer le soutien qui leur est apporté et de les protéger.
L'UNICEF déplore le non-enregistrement des naissances de 166 millions d'enfants de moins de 5 ans dans notre planète, ce malgré des progrès réalisés dans ce domaine à l'échelle mondiale. C'est ce qu'indique son rapport intitulé « L'enregistrement des naissances pour chaque enfant d'ici 2030, où en sommes-nous ?» rapport publié mercredi. Tout en donnant les causes de cette situation, l'agence onusienne propose des actions qui visent à protéger tous les enfants. Le condensé de ce rapport avec Jean-Pierre Elali Koko.
Ce rapport est fondé sur l'analyse des données provenant des 174 pays. Il constate d'abord que la situation s'est nettement améliorée dans ces pays en matière d'enregistrement des naissances à l'échelle mondiale, avec une progression de près de 20% sur les 10 dernières années. Nonobstant cette embellie aux performances, l'UNICEF constate qu'au moins 166 millions d'enfants passent encore entre les mailles du filet, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni connus ni recensés, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne. Parmi les causes, le rapport note la méconnaissance des formalités, le coût prohibitif de la démarche et de l'obtention du certificat de naissance, l'éloignement des centres d'enregistrement et aussi les pratiques traditionnelles dans certaines communautés. Et pour que l'enregistrement des naissances pour chaque enfant soit effectif d'ici à 2030, l'UNICEF invite les États à mettre en œuvre 5 actions, notamment le fait de fournir à chaque enfant un certificat de sa naissance, donner les moyens à chaque parent d'enregistrer ses enfants à la naissance, lier l'enregistrement de la naissance à d'autres systèmes tels que la santé, la protection sociale ou encore l'éducation.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Parlons maintenant ODD, Objectif de Développement Durable, avec Oasis Kodila Tedika, expert à l'Observatoire Congolais des Objectifs de Développement Durable. À ce sujet, l'UNESCO a tenu du 9 au 11 décembre à Kinshasa un atelier de formation des journalistes. Oasis Kodila a été l'un des intervenants. Il évoque ici la question de la domestication et de l'appropriation de ces ODD par la RDC, ainsi que les défis financiers. Oasis Kodila s'entretient à ce sujet avec Jean-Pierre Elali Koko.
Monsieur Aziz Kodila Tedika, bonjour. Bonjour à vous.
Vous avez parlé de la domestication des ODD en RDC et les priorisations. Qu'est-ce que nous pouvons retenir là-dessus?
Il faut retenir simplement que depuis 2016, l'RDC a un package prioritaire, c'est-à-dire que l'RDC a défini des priorités en termes de cibles des ODD. Et donc c'est l'engagement international que le pays doit respecter, doit honorer. Et donc nous devons mettre en place des politiques publiques pour rencontrer les cibles des ODD.
Et quelle est l'importance des ODD dans les plans et stratégies provinciales?
En fait, la planification dans ce sens-là est indispensable parce que ça coordonne toutes les activités vers les ODD. Si les ODD sont alignés, ça veut dire déjà qu'il y a un certain niveau d'appropriation politique. Or, sans appropriation politique, on ne peut pas vraiment atteindre les ODD.
Vous êtes descendu dans certaines provinces du pays. Est-ce que vous pouvez parler de cette expérience et de votre expérience dans ce domaine, au niveau des provinces?
À ce niveau-là, c'est aussi la même logique. C'est-à-dire que nous avons fait ce qu'on appelle la localisation des ODD. Sur les 26 provinces, pour l'instant, il y a seulement 11 provinces qui ont été couvertes. Et donc, il y a nécessité pour que les autres provinces, c'est-à-dire les provinces non couvertes, que nous puissions nous y rendre. Donc, le pays doit déployer ses experts afin de faire ce travail de localisation qui est un bon préalable pour l'élaboration de plans de développement provincial, ce qu'on appelle en abrégé les PDP. Et donc, il y a cette nécessité-là, sinon il y aura une évolution à double vitesse entre les provinces qui ont été localisées, entre les provinces qui n'ont pas été localisées, entre les provinces qui ont les PDP et d'autres qui n'en ont pas.
Merci beaucoup, mais pour parler finalement des défis que vous avez évoqués dans l'échange ici, il y a des défis de financement et d'appropriation. 31 milliards par an, vous l'avez dit. Que faut-il faire pour réunir ces financements?
Bon, dans les 31 milliards, c'est déjà une précision de première importance. Ce qu'il faut signifier ici, c'est les minima. Bon, ça veut dire que il y a plus que ça en réalité. Deuxièmement, ce qu'il faudrait retenir, rien n'est impossible, dans le sens où, d'abord, dans ce chiffre que vous avez cité, il y a une part qui devrait provenir, évidemment, du public et une autre quantité qui devait provenir du secteur privé. Donc le tout, c'est de mettre en place des cadres, un cadre en fait pour que le privé travaille dans ce sens-là. J'ai développé toute une logique de comment est-ce que les privés peuvent aller dans ce sens-là et donc c'est très difficile de dire ça en très peu de mots. La deuxième chose, c'est du côté public. Du côté public, il y a d'abord la mobilisation de ressources internes. C'est-à-dire qu'il nous faut des réformes. Il y a des réformes qui sont déjà connues dans ces pays, qui sont nécessaires, qui sont indispensables, allais-je même dire, pour que nous puissions augmenter, pour que nous puissions mobiliser davantage les ressources. Et donc, il faut aller dans ces réformes-là déjà. Ensuite, il faut imaginer d'autres types de financements, ce qu'on appelle les financements innovants. Il faut aller dans ces sens-là pour mobiliser davantage les ressources pour que nous puissions espérer atteindre les ODD.
Oui, une dernière question, Monsieur Oasis. Je ne vous prends pas beaucoup de temps. Il y a 4 ans déjà que les ODD sont mises en œuvre. Quels sont les ODD dans lesquels la RDC a enregistré peut-être quelques progrès?
Quand vous regardez l'indice global des ODD produits par les réseaux de solutions des Nations Unies, on remarque que la RDC a une note autour de une note très faible, en deçà de 50 points sur 100. Et donc c'est assez handicapant par rapport au reste de temps qui reste à parcourir.
10 ans.
Oui.
Pratiquement.
Oui. Voilà. Alors, ça c'est de manière globale. Maintenant, de manière détaillée, ODD par ODD. Pour l'instant, il y a des projections qui existent, mais nous sommes en train de conduire une enquête qu'on appelle EJODD, une enquête qui nous permettra de renseigner l'essentiel des indicateurs provenant essentiellement des données administratives et des indicateurs provenant de sources de ménages. Et ces indicateurs-là, en fait, ces informations, les statistiques que nous allons collecter et que nous sommes en train de collecter vont nous permettre en réalité de renseigner certains nombres d'ODD pour lesquels nous n'avons pas d'informations. Et donc aujourd'hui, m'hasarder à dire lequel progresse davantage, en réalité, risque de discriminer les ODD pour lesquels nous n'avons pas des enfants.
Et l'éducation, par exemple, ça c'est pour les ODD?
Oui, l'éducation, c'est l'ODD 4. Déjà, il faut retenir que une bonne partie de cet ODD-là était déjà dans les ODD. Et donc, à ce titre-là, les pays avaient quand même fait des progrès assez importants, surtout en termes quantitatifs, c'est-à-dire le taux d'inscription sont aujourd'hui assez importants. On a connu des progrès dans ce sens-là, mais cela n'est pas tout.
Voilà, Monsieur Oasis, Kodila Tedika, je vous remercie.
Merci à vous.
présent la page de nos nouvelles en bref. En Ituri, les activités de riposte à Ebola se sont intensifiées depuis près de deux semaines à Biakato, en territoire de Mambasa, grâce à une action d'une équipe d'agents d'UNICEF et d'ONG internationales. Ces agents se déplacent quotidiennement dans cette localité pour appuyer le personnel médical local dans la prise en charge des malades d'Ebola. Ils sont escortés par les casques bleus de la MONUSCO à partir de la localité voisine de Mangina, au nord Kivu, où ils sont installés pour l'instant. De l'Ituri, rendons-nous au Maniema. Plus de 800 ménages sinistrés de la pluie torrentielle du 24 septembre dernier, secourus par Caritas Kindu grâce à une dotation de l'UNICEF. Elle est constituée notamment d'articles ménagers. Dans un communiqué publié en début de semaine, Caritas Congo Asbel indique que les ménages bénéficiaires de cette action humanitaire sont issus des trois sites de la cité des Kailo, à savoir Lukungu, Nyoka et Muyengo. La distribution a eu lieu dans les installations de Caritas Kindu en présence de l'administrateur du territoire de Kailo et d'un représentant de l'UNICEF. Retour au Nord Kivu avec le chapitre des droits de l'enfant. 16 garçons âgés de 13 à 17 ans ont été vérifiés et séparés des groupes armés cantonnés au centre de regroupement des FARDC à Mubambiro. C'est une action de la section protection de l'enfant de la MONUSCO dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat. Les enfants séparés ont ensuite été référés à une structure de protection de l'enfant pour la prise en charge.
Magazine des Nations Unies. L'invité.
Le magazine des Nations Unies revient sur l'interview de François Grignon, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en charge de la protection et des opérations. Après Beni, François Grignon s'est rendu jeudi pour la première fois au Maniema dans une visite officielle. Dans cet entretien avec Mathieu Ilunga, il part des objectifs de sa visite dans cette province.
Monsieur François Grignon, bonjour.
Bonjour.
Depuis votre nomination, c'est votre première visite officielle dans la province du Maniema. Quel est l'objectif de cette visite?
Ben écoutez, je suis venu au Maniema pour rencontrer le leader du Maniema, que ce soit au niveau de la société civile ou au niveau de la province, pour discuter avec donc ses partenaires quels sont les problèmes que rencontre la province, comment la MONUSCO peut aider à les résoudre, comment nous pouvons améliorer notre efficacité et remplir au mieux notre mandat. Comme vous le savez, nous sommes dans une situation où la mission s'engage maintenant dans une stratégie de sortie. Donc il est essentiel que nous intensifions notre partenariat, nos relations avec les autorités tant, je dirais, institutionnelles que non institutionnelles. Je veux dire le gouvernement de la province et les représentants de la société civile pour faire en sorte que nous puissions les aider à assumer les fonctions nécessaires afin que la mission quitte dans les meilleures conditions et qu'ils puissent aussi également commencer à développer les partenariats avec d'autres acteurs des Nations Unies qui continuent à leur apporter leur appui.
Aussitôt arrivé, vous avez échangé avec les organisations de la société civile et celles des femmes. Mais sur quoi ont porté vos échanges?
Ces échanges avec les organisations de la société civile sont particulièrement importantes parce que ce sont les forces vives de la nation qui jouent un rôle absolument critique dans l'amélioration de la gouvernance du pays. Comme vous le savez, le mandat de la mission traite de la protection et traite de la stabilisation, notamment de la lutte contre l'impunité et du renforcement des capacités de l'État et d'un État de droit, d'un État, je dirais, démocratique, légitime, et d'un État où la justice et le respect des droits de l'homme auraient fait des progrès significatifs. Pour obtenir ces résultats, ce n'est pas simplement travailler en partenariat avec les institutions de l'État, c'est aussi s'assurer que la société civile puisse jouer son rôle, je dirais, de contrepoids aux institutions nationales. Il faut investir dans ses capacités aussi à soutenir les communautés, parce que le Congo est un pays continent, le Congo est un pays dont les besoins sont immenses et l'État ne pourra pas à court terme assumer l'ensemble des besoins, l'ensemble des attentes. Donc il faut investir dans la société civile, dans les communautés pour qu'elles puissent aussi se prendre en charge, qu'elles puissent assumer un certain nombre de besoins de protection, des besoins économiques, jouer son rôle de leadership pour faire avancer le pays. C'est un projet collectif qui doit être réalisé où, l'ensemble des partenaires des Nations Unies puissent être amenées à jouer leur rôle pour la stabilisation du pays.
Certains territoires de la province du Maniema subissent des exactions de groupes armés. Quelles sont les actions de la MONUSCO dans son nouveau mandat pour mettre fin à ces groupes armés?
Nous en avons parlé et nous sommes bien sûr particulièrement inquiets sur les cas nombreux de violences sexuelles qui ont eu lieu dans le territoire de Kabambaré, dans le secteur Babouyou. Il semble effectivement qu'il y ait toujours une violence rampante, notamment sur les femmes. Mais nous ne pouvons pas réussir à augmenter la protection des civils sans partenariat avec les autorités nationales et les autorités provinciales. Nous ne pouvons pas nous substituer à l'État. Nous ne pouvons pas nous substituer à la police, au FARDC. Nous devons venir en appui. Et donc, l'un des objectifs de ma mission également, c'est justement de demander à ces autorités comment elles vont répondre aux besoins de la population, de sorte à ce que nous puissions les appuyer. Mais l'initiative, le leadership, doit venir du leadership de la province, que ça soit ici à Kindu, au niveau national. Et comme vous le savez, la province dispose, je dirais, d'un vivier de leaders nationaux extrêmement riche. Donc il est vraiment important que ceux-ci puissent assumer la responsabilité première et prendre la direction, je dirais, des initiatives qui vont résoudre ces problèmes de sécurité. Nous ne pouvons pas y arriver sans qu'elles le fassent.
Vous avez écouté les femmes, vous avez écouté les associations de la société civile. C'est quoi votre constat?
Mon constat, tout d'abord, c'est qu'elles sont mobilisées, déterminées, engagées à vouloir faire avancer le Congo et la province du Maniema vers toujours plus de stabilité, de gouvernance démocratique et aussi de trouver des solutions aux problèmes de développement. Donc je dirais que c'est extrêmement encourageant parce que la population congolaise semble déterminée à travers ses représentants de la société civile à se prendre en charge, à régler ses problèmes et elle a besoin de soutien, elle a besoin d'être appuyée, mais c'est elle qui apportera les réponses à leurs besoins. Donc ces rencontres ont été extrêmement, je dirais, satisfaisante parce qu'elle montre encore une fois toute la vivacité et tout l'enthousiasme de la population congolaise à aller de l'avant et résoudre ses problèmes.
Monsieur François Cagnon, je vous remercie.
Je vous remercie.
Revenons sur la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme en nous rendant dans la province du Tanganyika. Ici, les casques bleus indonésiens avec des membres d'autres sections substantives de la MONUSCO sont allés au chevet des détenus de la prison centrale de Kalemi. François-Xavier Mibé pour le reportage.
La danse, la consultation médicale, la prise en charge psychologique et le partage du repas avec les prisonniers. Voilà les temps forts de cette activité que viennent d'entreprendre les casques bleus indonésiens en faveur des prisonniers. La maison carcérale, construite à l'époque coloniale et réhabilitée en 2009 par la MONUSCO et l'ancienne province du Katanga, a été conçue pour une capacité d'accueil de 250 personnes. Cette prison regorge aujourd'hui 823 détenus, dont 21 femmes et 25 mineurs. La directrice de la prison parle d'une surpopulation préoccupante, Thérèse Mbuyuwa Kalinga.
Les détenus sont attirés, ils dorment aussi à même sol, n'ont pas de couverture ni drap, et aussi des uniformes pour les identifier.
Pour toutes ces préoccupations, l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO indique que les discussions sont en cours entre les autorités provinciales et la MONUSCO. Il y a, entre autres solutions envisagées à court et à long terme, le transfert des détenus, la révision de la loi sur la libération conditionnelle des prisonniers et enfin la construction d'un établissement de garde et d'éducation des enfants en conflit avec la loi. François Djabimbe, Radio Okapi, Kalemi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Suivez encore cette question qui avait été posée au secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, au cours de sa conférence de presse à Kinshasa lors de sa dernière mission en République démocratique du Congo.
RTNC2 Développement, Laetitia Masséla, Monsieur Lacroix, bonjour. Vous vous êtes imprégné de la réalité désolante de ces derniers jours à l'est de la République démocratique du Congo. À vos yeux, quel est le schéma efficace et durable à appliquer pour mettre fin aux multiples drames humanitaires vécu par les populations, drame humanitaire qui prévient de guerres qui se déroulent à l'est de notre pays. Merci.
Bien, je crois qu'il n'y a d'abord pas de réponse simple. Et on entend souvent, vous la MONUSCO, vous devez nous débarrasser de ces groupes armés, et puis une fois que vous aurez fait le travail, et souvent on nous dit, vous le faites tout seul, la question sera réglée. Je ne méconnais pas du tout la responsabilité que nous avons au titre de notre mandat. Donc croyez bien que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'importance d'améliorer notre réponse et notre effort est vraiment non seulement sincère, mais sera suivi d'action. Maintenant, vous avez une problématique qui, je crois, est plus large, et c'est pour ça que je dis qu'à côté des efforts pour restreindre peu à peu, avec des opérations de nature sécuritaire, l'espace, restreindre l'espace de ces groupes armés, notamment des ADF, qui mènent une guerre asymétrique, il faut travailler auprès des populations pour leur redonner confiance, pour amener des projets et des actions qui amélioreront leur quotidien et qui leur montreront que le chemin de la paix est possible. C'est la raison pour laquelle nous avons échangé avec nos partenaires, à la fois à l'intérieur des Nations Unies, mais aussi l'Union Européenne et Banque Mondiale, sur l'importance qu'il y avait à mobiliser rapidement des ressources pour qu'en complément de nos actions sur le plan sécuritaire, et je voudrais associer aussi la police, parce qu'il est important aussi, et nous allons y travailler, de renforcer non seulement notre coopération avec la police, mais aussi notre propre présence en matière de police. Donc, ces projets de nature de développement, de nature humanitaire qui permettent d'avancer, de faire avancer la stabilisation. Donc il y a un ensemble d'actions qui sont complémentaires les unes aux autres. Mais j'ajouterai aussi l'impunité. Et l'impunité, c'est d'abord la responsabilité, ou plutôt la non-impunité, le rejet de l'impunité, c'est la responsabilité première des autorités judiciaires de ce pays. Je crois qu'il est essentiel que ceux qui sont responsables des crimes contre la population puissent être appréhendés, traduits en justice et rendre compte de leurs actes. Et dans un contexte où nous soutenons sur le terrain et nous allons essayer d'améliorer et de faire tout le possible pour améliorer la nature de ce soutien, la nature de cette réponse commune, nous avons une responsabilité aussi pour faire en sorte que les autorités, notamment la police, puissent appréhender les responsables et de faire en sorte qu'ils soient jugés.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC, chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
À présent, notez dans votre agenda que le 18 décembre, c'est la Journée internationale des migrants et le 20 décembre, Journée internationale de la solidarité humaine. C'est donc la fin de cette émission réalisée et coordonnée par Jean-Pierre Elali Koko qui était également au reportage. Honoré Missenga Kalala au reportage et moi, c'est Belinda Bosuma. Je vous l'ai présenté avec l'aide technique de Willem Lungamba. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission dans notre site www.radiocapi.net. Toute l'équipe de Magazine des Nations Unies vous souhaite joyeux Noël et tous ses vœux de nouvel an 2020. Au revoir.